Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission de la vie au quotidien. Eh bien, nous allons parler du développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Quelle est son importance et quelles sont les stratégies de mise en œuvre du gouvernement congolais? Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans cette émission le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Louis Watum Kabamba. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, Denis.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport au développement des PME, de l'entrepreneuriat RDC. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi. Toute l'équipe est en place. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Debs Vita est à la mise en ondes au micro. Jody Daniel Kachama, Jean-Marc Matouaki assurent la supervision de cette émission de la vie au quotidien. Et puis nous avons Nelson qui est à la manette, qui assure la retransmission live sur les différentes plateformes digitales des radios Okapi. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente condition d'écoute de ce magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, le gouvernement congolais accorde depuis quelque temps un intérêt particulier à la promotion de l'initiative privée, particulièrement des petites et moyennes entreprises. D'après nos sources, la démarche du pouvoir public consiste à faire de l'entrepreneuriat son fer de lance pour la promotion des classes moyennes et la création de la nouvelle génération des millionnaires congolais. Alors, comment le gouvernement compte s'y prendre? Pourquoi est-il important de promouvoir l'entrepreneuriat et quelle est la politique du gouvernement congolais pour booster la croissance économique? On en discute aujourd'hui avec le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Louis Watum Kabamba. Monsieur le ministre, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission au Okapi Service. Alors, la première question est de savoir... quelle est la politique du gouvernement congolais pour la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à la croissance économique?
Oui, merci Jody pour l'invitation d'abord. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même avoir une pensée pour nos populations qui sont à l'est du pays, qui sont en train de connaître cette guerre injuste. Et je pense également à tous les entrepreneurs qui sont là-bas, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont aussi en Ituri où il y a des tueries en ce moment, des tueries atroces, d'une cruauté inhumaine qui sont en train de se dérouler là-bas. J'ai une pensée pieuse pour les victimes, mais également pour toutes les familles qui sont éprouvées. Et j'en profite enfin pour saluer la grande communauté des entrepreneurs dans toute la RDC. Que vous soyez à Bassankoussou, à Inongo, à Doruma, que vous soyez à Maagi, à Ariwara, que vous soyez à Dilolo, que vous soyez dans le Kwilu, à Chikapa, où que vous soyez, je vous salue là où vous êtes. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, lorsque vous êtes dans un pays avec plus de 100 millions d'habitants, à large majorité jeunes, et lorsque vous êtes également conscient que le système éducatif de notre pays forme plus pour être demandeur d'emploi que créateur d'emploi, vous comprenez bien que le taux de chômage va crescendo. C'est ainsi que le gouvernement accorde une très grande importance à l'entrepreneuriat pour résorber justement ce chômage-là, mais également pour créer des richesses. Parce que dans tous les pays du monde, quelque part, l'entrepreneuriat chevauche avec la création des richesses. Et donc, notre politique du gouvernement, ce n'est pas rester dans des vœux pieux, mais c'est plutôt se doter d'un écosystème dont on pourra parler peut-être plus tard dans l'émission, et le rendre opérationnel pour pouvoir faire éclore nos entrepreneurs.
Et l'objectif, c'est de créer comme une entreprise des jeunes et des femmes, parce qu'on met l'accent sur les jeunes et les femmes surtout.
Oui, nous nous sommes fixés de créer sur les 3-4 ans qui viennent environ 1 million de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Minimum, mais ce n'est qu'un objectif que nous voulons aussi battre, que nous voulons aussi dépasser. Parce que lorsqu'on regarde la taille de notre pays, il ne faut pas faire des affaires d'épicier. Il faut regarder les choses en grand. Il faut des grands moyens. Il ne faut pas faire des projets juste à titre de projet pilote dans 3-4 provinces, mais il faut viser 26 provinces à la fois. Parce que Jody, vous savez que l'entrepreneuriat au Congo est très très répandu finalement. Nous avons des entrepreneurs partout, depuis les mamas Zando jusqu'aux jeunes qui vendent au bord de la rue, etc.
Ce sont des entrepreneurs,
mais seulement
bien que dans l'informel.
Voilà. Le grand problème, c'est qu'ils sont dans l'informel. Ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas capacités, ils n'ont pas accès à de vrais marchés pour grandir et devenir des champions. C'est ça notre challenge, c'est ça notre tâche, pouvoir les encadrer, pouvoir les remettre dans le formel et les voir grandir finalement dans la création des richesses.
Donc tout commence par la formalisation. Et comment vous faites pour les aider parce qu'il y a déjà cette vitalité, cette énergie qu'il faut canaliser.
Tout à fait. Je dis, nous avons un écosystème formidable d'encadrement des entrepreneurs. En commençant par l'ANADEC qui les forme et qui les capacite. Ensuite, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un nouveau monde. Lorsque vous venez des études, nos études sont très élitistes, le système éducatif qu'on a hérité de la Belgique à l'époque. C'est un système qui vous forme à travailler dans une entreprise et non pas à créer des entreprises.
Oui.
Et donc, c'est exactement comme si vous avez grandi dans un pays francophone. Vous avez grandi dans un pays francophone et un jour vous vous retrouvez dans un pays anglophone. Ben, je crois que la première des choses, c'est apprendre l'anglais. Dans ce nouveau monde. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat, avoir un peu d'éducation financière, savoir comment monter un plan d'affaires, savoir comment chercher les financements et les obtenir aussi. Et donc, il y a d'abord la capacitation par l'ANADEC, puis ensuite, il faut que nous, le gouvernement, nous présentons des fonds de garantie pour que ces entrepreneurs soient financés à des taux compétitifs, à des taux très 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 bas, des taux d'intérêt. Parce que aujourd'hui, nos banques commerciales font du 15%, 20% au taux d'intérêt.
C'est
mais
beaucoup.
On va tuer nos entrepreneurs.
Oui, c'est impossible. Pour les entrepreneurs,
c'est impossible à un entrepreneur de survivre à des taux pareils. Il faut le prendre à 5% au moins, minimum. Avec une fiscalité ramenée à presque zéro. Zéro, c'est trop dire, mais vraiment le plus bas possible, le plus léger possible pour que pendant quelques années, l'entrepreneur puisse se construire des muscles financiers. Et donc, il y a l'ANADEC, puis il y a le FOGEC qui sert de fonds de garantie pour les financements. Et une fois qu'ils sont financés, il faut qu'ils aient accès à des marchés. Et c'est là que l'ARSP intervient, régule ce secteur-là pour que nos entrepreneurs puissent avoir accès à des marchés. Et en fait, la prochaine veille à ce qu'on puisse faire un monitoring de tout cela, pour que ça puisse baigner dans l'huile, que ça puisse marcher, qu'on puisse finalement voir cette classe moyenne se développer finalement, et qu'on voit également des champions se développer.
Donc l'écosystème est déjà mis en place pour accompagner les entrepreneurs.
Oui, l'écosystème est mis en place, mais comme vous savez, dans notre pays, on fait des réformes, on a des belles lois, et souvent nous pêchons dans l'exécution, dans la mise en pratique de ce que nous voulons faire. Et je dois avouer, à mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai trouvé ces structures qui étaient dépourvues de moyens, qui les financements ne suivaient pas et autres. Donc c'est une des premières choses à laquelle nous nous sommes attelés, à remettre un peu de moyens à ces structures-là.
Les frais de fonctionnement de chaque structure.
Pas seulement les frais de fonctionnement. Oui, les frais de fonctionnement, c'est une chose, mais surtout les frais pour faire le travail qu'ils sont censés faire. Nous devons nous rapprocher des entrepreneurs qui sont en province. Nous ne pouvons pas rester à Kinshasa ici et attendre que les entrepreneurs viennent ici à Kinshasa. Mmh. Ça veut dire qu'il faut que nos structures puissent se déployer en province, puissent s'installer en province. Et être plus proche de ces entrepreneurs-là. Pour ça, il faut des moyens. Il faut les financer. Ce sont les banques, ce sont les institutions financières qui vont le faire, certes, mais nous devons nous fournir des fonds de garantie. Mais ces fonds, il faut les avoir, d'une manière ou d'une autre. Et puis, bien sûr, le reste suit. De même pour les marchés aussi, il faut aussi des financements également. Donc, nous nous sommes attelés à ce que ces structures puissent avoir des financements. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est assez? Non, ce n'est pas assez. Oui. Je dois avouer... Ce n'est pas encore assez. Lorsqu'on regarde la taille de notre pays, il faut des gros moyens. Je m'en vais vous dire une chose, par exemple, dans mon plan ambitieux, dans le plan d'action gouvernementale que je dois exécuter, pour créer le million de petites et moyennes entreprises qu'il faut sur les 3 ans à venir, j'ai besoin d'environ 3 milliards de dollars. Donc, mais ces 3 millions de dollars, il faut les trouver quelque part. C'est 3 milliards, pardon, de dollars. 3
des milliards dollars. De dollars. Pour les 3 ans, pour créer 1 million d'entreprises dans 3 ans.
Parce que moi, je vise 26 provinces. Je n'en vise pas 3, 4, 5, je vise les 26 provinces. Ben, ces 3 milliards, il faut les trouver quelque part. Le trésor, dans mes calculs, pourrait peut-être intervenir jusqu'à 15-20%. Le reste, il faut chercher ça ailleurs. Maintenant, avec la guerre injuste qu'on nous impose à l'Est, comprenez bien que nous avons choisi de défendre l'intégrité, la souveraineté de notre pays. Ça vient avec un coût. Et donc, même les 15-20% auxquels on pensait peut-être qu'il faudra encore réduire nos ambitions, ça voudra dire qu'il faut encore davantage d'efforts pour chercher les fonds. En réalité, cette guerre est en train de nous faire reculer au lieu de nous faire avancer. C'est bien dommage.
Bien. Nous savons que le gouvernement congolais a développé un projet Transforme en collaboration avec la Banque mondiale. C'était d'abord le projet PADEM-PME qui est devenu aujourd'hui le projet Transforme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, le projet Transforme dont on parle tant, c'est l'émanation d'un partenariat entre notre pays et la Banque mondiale. C'est un projet qui vise à former et à capaciter l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes. Et également leur donner des moyens, les financer également. Et donc c'est un véritable boost pour l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une cagnotte d'environ 300 millions de dollars. C'est venu après le PADEMPE parce que le PADEMPE au final a été un succès relatif. On a voulu maintenant monter en gamme. Et le faire sur quelques provinces maintenant. Ce n'est toujours pas assez, comme je le dis.
Maintenant, c'est une dizaine de provinces, je pense.
Il y en a 9, je crois, si je ne m'abuse. Je n'ai pas le nombre exact. Mais je reste sur ma soif parce que la RDC ne se limite pas à quelques provinces. La RDC, c'est 26 provinces. Parce que lorsqu'on vise quelques-unes des provinces, quid des autres? Est-ce que c'est quelques
les
provinces
visées? Les autres vont se sentir frustrés.
Absolument, absolument. Et c'est ça mon cheval de bataille. C'est pour cela que nous nous battons encore... corps et âme pour avoir suffisamment de financement pour le faire sur 26 provinces. Nous avons une jeunesse formidable, une jeunesse pleine de créativité. Partout où je passe, je suis approché et j'entends des idées. Certains se sont même jetés à l'eau en commençant déjà des projets par leurs propres petits moyens.
Des idées innovantes. Hein.
Des idées innovantes et parfois sans électricité, sans eau, sans infrastructures routières et autres, mais il crée 50, 60, 80 emplois, 160 emplois et autres, et c'est des choses qui me mettent un peu de baume au cœur. Ça me fait dire que quelque part, si on pouvait les encadrer, si on pouvait les capaciter, on pouvait jouer notre part, nous, l'État, on verrait un Congo différent.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons du développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo avec Louis Watum Kabamba, ministre national de l'Industrie et développement des petites et moyennes entreprises. Nous avons déjà en ligne Georges Kilangala depuis Bounia et Justin nous appelle de Kasumbalesa. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est ouvert, composez les 099-706-9941.
Au capé.
Bien, Georges Kilangala, vous êtes à Bounia. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour au ministre, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Avant de poser ma question, je voulais d'abord saluer les efforts du gouvernement congolais qui, en tout cas, fait presque le nécessaire pour rendre l'écosystème entrepreneurial vivant. Mais moi, je pense que ce que nous pouvons dire par rapport à tout ce qui s'est fait, on a le FOGEC, on a l'ANADEC, on a également d'autres structures qui accompagnent les jeunes, ça c'est vraiment à saluer. Mais nous pensons que les problèmes du gouvernement se posent au niveau de la gestion de tous ces programmes, mais également au niveau de financement. Je pense que le ministre lui-même vous a dit, le gouvernement, de tous les projets, le gouvernement prévoyait financer à hauteur de 20% les différents programmes. Alors que le chef de l'État vous a parlé de 6 millions d'emplois par année. Et c'était justement dans le domaine de promotion de PME. Mais on se rend compte que le gouvernement, bien sûr, le financement extérieur n'est pas du tout mauvais, mais le financement extérieur a ses caprices. Le gouvernement, moi je me pose la question... Ben, qu'est fait les budgets qui sont votés chaque année au Parlement? Parce que quand le gouvernement n'arrive pas à financer les projets qui l'initie lui-même, eh ben ça nous pousse à nous Congolais à nous poser des questions. C'est quoi maintenant le rôle du gouvernement? Mais également lorsque vous voyez la gestion de tous ces programmes, ça vous laisse vraiment perplexe.
Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité, au ministre?
Oui, moi je voulais, est-ce que tout le programme que le gouvernement initie, est-ce qu'il faut seulement de financement extérieur? 3 milliards pour un pays comme la RDC, dans 3 ans, selon ce qu'il est en train d'expliquer. Est-ce que le gouvernement n'est-il pas à mesure de financer en grande partie ses moyens? Parce qu'aujourd'hui, on nous brandit les histoires de la guerre. Mais de temps en temps, on apprend les détournements qui se comportent bien. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas fournir des
fonds pour financer? D'accord. Même d'accord, c'est noté.
Détourné.
D'accord.
Je voulais terminer, monsieur. Le projet Péjab, l'argent a été détourné. Le ministre le connaît bien. Aujourd'hui, on a transforme sur la Banque mondiale. Est-ce qu'il faut toujours être dépendant? On nous chante l'indépendance du pays. L'indépendance doit commencer là-bas.
Merci Georges. Merci beaucoup Georges Kilangalanga depuis Bounia. Justin, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et je dis bonjour à notre invité, Son Excellence qui est au studio aujourd'hui.
Quelle est votre question,
Justin? En tout cas, sincèrement, j'apprécie Son Excellence d'être franc, de dire la vérité sur la prise des choses, la manière dont les gens de Kinshasa voient les choses. Nous, ici, dans les intérieurs, à Fungurume, à Kaye et à Kazaza, nous sommes dans les oubliettes. Alors, nous commençons même à nous prendre que si nous ne sommes pas à Kinshasa, parfois nous ne raisonnons pas bien. Donc, il faut être à Kinshasa pour être très intelligent. Or, que ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont à Fungurume qui vous donnent des projets. Et dès que vous mettez même 2 francs, 2 dollars, et vous sentez qu'il y a des têtes qui résonnent à Fungurume. Là, en tout cas, comme il a dit, qu'il est en train de se battre pour désenclaver ses projets et le ministère, en tout cas je l'encourage et je le souhaite toutes les bonnes choses. Il y a encore une question que je vais faire et que je vais démontrer à notre ministre. Peut-être qu'il ne connaît pas ce qui se passe ici chez nous à Fungurume. Nous avons les sociétés qui produisent beaucoup d'argent, beaucoup de dollars. À l'occurrence, dans le Lualaba, nous avons KCC, Mumi, Mutanda, Kamoa, si pour ne pas citer Tank Fungurume Mining. Ils font des farces de soutenir des entrepreneurs. Et les projets sélectionnés ne sont pas, les vrais projets ne sont pas pris en compte. Et je prends à témoin mes auditeurs qui me suivent ici à Fungurume. Un grand nombre des entrepreneurs sont à la TFM, sont des expatriés. S'il n'est pas un Congolais expatrié, c'est un Chinois ou soit un Indien. Bien, on ne donne pas de la valeur à nous les autochtones qui sont sur place et en nous octroyant les marchés. J'ai l'exemple d'un ami avec qui on pataugeait avec le contrat de fonds sociaux. Il a trouvé sur le contrat à Kamoa. Aujourd'hui, c'est un milliardaire, je ne m'approche même pas de lui. Mais notre ministre, est-ce qu'il ne peut pas s'investir et descendre à Fungurume, tuer aux oreilles à nos gens qui donnent le contrat aux Chinois, qui donnent les contrats aux expatriés, de donner aussi aux fils majeurs de notre pays, pour ne pas être un tribaliste et d'attirer seulement les droits de notre côté, prendre quelqu'un de Fungurume, prendre quelqu'un de Ngouba, prendre quelqu'un de Tenke et le booster aussi à avancer. Et je pose la question à notre invité s'il pourra nous répondre juste à la fin. Il y a deux poids et deux mesures. Pour être un entrepreneur, on vous demande les documents. Et comment? J'ai l'idée, mais je n'ai pas l'argent. Je suis en train de lorgner chez le gouvernement pour s'il peut me subvenir à mes projets. Mais c'est le gouvernement qui va me demander en première position de donner d'abord, il y a la ville à l'assujettement à la TVA, attestation des situations fiscales qui sont valables pendant 6 mois. Si je n'ai pas le contrat, je vais trouver l'argent pour me mettre en ordre où?
Bien, donc, merci. Donc ça c'est... Merci Justin depuis Kasumbalesa. On a compris votre préoccupation. On va donner la parole à Denis, un entrepreneur de Kinshasa. Bonjour Denis.
Bonjour Monsieur Jeudi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour la parole. Moi je m'appelle Béni, comme vous l'avez dit, j'appelle depuis Kinshasa et je suis très content du sujet abordé aujourd'hui et de l'invité qui est notre ministre des tutelles. C'est un monsieur que j'apprécie aussi beaucoup parce que je l'ai suivi très longtemps depuis Radio Capi et ailleurs. Moi, je suis content qu'il soit le ministre des PME et de l'industrie aujourd'hui. Moi, j'ai voulu dans le secteur de l'agriculture et plus précisément dans l'élevage. Parce que je trouve inconcevable que le Congolais, un si grand pays que le Congo, nous puissions, je veux revenir peut-être en arrière pour dire que les prédécesseurs de monsieur Louis, en 2023, nous a dit que la RDC dépendait de l'extérieur pour satisfaire ses besoins agroalimentaires à hauteur de 80%. Et ces besoins-là étaient couverts avec une enveloppe de 3 milliards de dollars chaque année pour des besoins agroalimentaires dans un pays où on a beaucoup de terres. Donc nous, on s'est dit, on va s'attaquer à cette problématique-là de la dépendance des RDC aux importations, principalement dans le secteur de l'élevage. Mais vous savez, monsieur Jeudi, en tant qu'entrepreneur, on fait face à beaucoup de défis. La première question, par exemple, parce que moi j'ai sillonné beaucoup de services. Aujourd'hui, j'ai du mal à savoir exactement combien de tonnes la RDC importe chaque année en termes de protéines d'origine animale, notamment la viande. Parce que nous, on importe les sabots, ce que les autres ne consomment pas. On importe les mipandi qu'on appelle les cotis et d'autres viandes qui ont voyagé, qui ont poli l'atmosphère et tout ça. Nous, on a commencé en 2021. Première question, c'est si les ministres, parce que ça vient de leur service, comment on peut faire pour connaître aujourd'hui exactement combien la RDC importe en termes de tonnes de viande de porc par année et l'argent qu'on perd. Nous, on va essayer d'établir sur cette problématique-là pour apporter notre solution. Deuxième question, monsieur Jeudi, on parle ici de l'accompagnement des PME en RDC. Moi, j'ai lancé ma PME en 2023. On a bien évolué jusqu'en 2024. On a atteint un cheptel de plus ou moins une cinquantaine de têtes de porc. Qu'est-ce que nous on fait? On fait de la production, de l'abattage, de la découpe et de la commercialisation. Mais fort malheureusement, on a été buté à un problème de la peste porcine africaine. ça a ravagé tout notre cheptel. Je suis allé voir l'ANADEC, ils m'ont dit, on va te classifier comme quelqu'un qui a une idée, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'effort. Et pourtant, j'ai vendu pendant près d'une année et demie, et j'ai payé l'impôt. Aujourd'hui encore, je viens de payer l'impôt au mois de janvier. Mais on n'a pas accès au financement quand on va. Moi, j'ai mon plan d'affaires, on a fait le Béjab pendant 4 mois. On a notre plan d'affaires, mais notre plan d'affaires et notre activité sont rentables. On a connu un problème que le ministère de l'élevage n'arrive pas à résoudre. J'ai été allé au ministère de l'élevage, je leur ai posé mon problème. La PPA n'a pas de vaccin, n'a pas de produits vétérinaires. J'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai saigné mes caisses, j'ai emprunté.
Bien, alors Denis, quelle est la question ? Quelle est la question que vous adressez au ministre ?
La première question, j'aimerais connaître auprès du ministre de l'Industrie, combien la RDC importe chaque année en termes de porcs ? La deuxième question, où est-ce que je peux me rendre ? Moi qui suis un entrepreneur, qui a rencontré un défi épidémiologique qui a ravagé tous nos porcs, mais on ne veut pas abandonner. Mais on n'a pas une idée. On est une entreprise. Aujourd'hui, on a des clients qui nous contactent. On ne sait pas répondre à la demande. On est en train d'aller acheter à gauche et à droite.
Malheureusement,
la qualité n'est pas toujours la bonne pour satisfaire à notre clientèle. Vous comprenez ? Où est-ce qu'on peut se rendre ? Nous qui avons été sur terrain, mais qui avons rencontré des difficultés, on est une entreprise en redressement, mais pas en lancement.
Merci beaucoup, Denis, depuis Kinshasa. Merci, Denis. Roger Marcel, vous êtes aussi à Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui du développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Quelle est la politique du gouvernement ? Roger Marcel, bonjour. Quelle est votre question ?
Bonjour, merci, Jérémy, et bonjour à l'invité. Comment vous allez ?
Oui, je vais bien, merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui ?
Bon, merci beaucoup pour la thématique du jour. Je pense que on a eu le premier ministre qui est venu.
Allô, Roger ? Désolé, la communication n'est pas bonne, on l'a perdue. Il va certainement nous rappeler. Monsieur le ministre, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Oui, merci Jody. Des très 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 bonnes questions, des questions très pertinentes. Je salue tous les entrepreneurs qui m'ont posé des questions. Je commence par le premier, c'est Georges, je crois.
Abounia.
Georges, on peut se tutoyer, hein. Moi, je suis très très relax là-dessus. Georges, tu parles de gestion des programmes et puis de problèmes de financement. Je crois que tu as parfaitement raison. Comment nous gérons les choses ? Comment nous gérons nos programmes ? Je suis conscient de cela. C'est pour cela qu'au sein de mon ministère, j'ai institué un système de revue de performance de toutes les structures sous ma tutelle tous les 6 mois. Je viens de le terminer d'ailleurs, de terminer cette revue de performance en décembre dernier, parce que j'ai totalisé 6 mois dans mon ministère. Toutes les structures, une à une,
l'ANADEC, le FOGEC,
l'ARSP, APROSEM, FPI, DGDC, AZES, tout ont défilé, conseil d'administration, comité de gestion, où on met sur la table quels sont les plans opérationnels, quels sont les indicateurs de performance, quels sont les états financiers, ce qui a été accompli, ce qui n'a pas été accompli, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Et donc ce n'est qu'un contrôle, une évaluation, un contrôle de proximité qui peut tant soit peu pallier à cela. Ce n'est pas l'endroit pour vous faire part des résultats de mon évaluation, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup de choses à améliorer dans notre gestion. Mais nous allons le faire ensemble. Nous sommes une équipe, nous allons jouer ensemble, nous allons gagner ensemble, et s'il faut prendre des buts, nous allons les prendre ensemble. Donc il y a ce contrôle de proximité, ces évaluations de performance régulières que je sais.
Chaque 6 mois.
Les structures sous ma tutelle le savent très bien. Elles savent très bien de quoi je parle si elles me suivent ici. Le problème de financement, je ne vois pas nécessairement des financements à l'extérieur du pays. Je pense qu'on dit toujours « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faut commencer par nos propres structures. Nous avons des fonds dormants au pays, pas seulement au CNSS, mais au FOMIN et autres. Nous regardons ces fonds-là. Nous sommes en discussion très avancée avec les banques qui sont établies dans notre pays également, pour voir des méthodes innovantes de financement. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais pas le prendre par plusieurs bouts à la fois, et sortir un peu des sentiers battus. Avoir un peu de l'ingénierie financière, finalement. C'est ce que nous sommes en train
je
de faire.
Je pense peut-être qu'ils font allusion au financement de la Banque mondiale avec Transform.
Ben, écoutez, la Banque mondiale est un partenaire. C'est un partenaire traditionnel de notre pays. Mais nous ne misons pas sur la Banque mondiale pour développer notre pays. Nous misons sur nos propres forces. Et c'est ici l'occasion pour moi de parler à la jeunesse. De dire à cette jeunesse qui me suit, cette jeunesse d'entrepreneurs, qu'aujourd'hui, les étoiles sont alignées pour vous. Et retenez une chose, chers entrepreneurs, dans la vie, vous n'avez pas que des droits, vous avez également des obligations. Parce que la vie fonctionne comme ça, elle fonctionne des deux côtés. Nous avons aujourd'hui une jeunesse extraordinaire dans le Nord Kivu, par exemple, qui, en dépit de tout ce qu'ils ont subi au cours de ces 30 dernières années, sont peut-être parmi les entrepreneurs les plus performants de toute la RDC. Je peux le dire sans être contredit aujourd'hui. Du point de vue du modèle des micros, industrie par exemple, le Nord Kivu est de loin plus développé que même le Katanga.
Il y a un dynamisme entrepreneurial.
Ils fabriquent même leur centrale, leur micro-centrale hydroélectrique, ils fabriquent même les turbines, etc. Ils asphaltent. C'est incroyable ce qu'on voit là-bas. C'est pour vous dire que ça fonctionne à deux sens. Hein. L'État fait sa part, vous avez aussi votre part à faire. Donc, du point de vue du financement, nous continuerons à nous battre. Peu importe pour moi d'où viennent les financements, comptons sur nous-mêmes. Et comptant également sur ce qu'on peut trouver ailleurs, le plus important, c'est qu'on ait les moyens de notre politique et que nous avancions. Je suis un optimiste incorrigible pour ceux qui me connaissent. Je ne vois pas pourquoi nous allons échouer, parce que nous méritons de réussir et nous avons une jeunesse qui est prête à ce challenge-là.
Justin de Fungurume a dit que là-bas, il a cité plusieurs entreprises minières mais qui ne soutiennent pas les entrepreneurs. Par exemple, dans la sous-traitance, on donne beaucoup plus de marché aux étrangers alors que les jeunes sont là et ils peuvent bien bénéficier de cela.
Oui, ce sont des situations que j'ai personnellement connues aussi, étant venu du secteur minier où j'ai évolué pendant plusieurs années. Je sais très très bien de quoi Justin parle et je partage sa frustration. Mais c'est ici l'occasion pour moi de faire appel au sens de patriotisme et d'intégrité de nous-mêmes. Parce que lorsque nous-mêmes, Congolais, nous nous prêtons à ce jeu-là, pour être des prête-noms, pour faire de la figuration, au détriment des règles élémentaires de compétition commerciale, je crois que quelque part nous faisons partie du problème.
Oui.
Nous pouvons mettre les plus belles lois du monde. Aujourd'hui, sous mon ministère, par exemple, et comme faisant partie de l'action gouvernementale, nous avons fait une relecture de la loi sur la sous-traitance pour la rendre plus efficace et plus ouverte dans le sens de supporter nos entrepreneurs. Nous avons même fait un avant-projet de contenu local. Contenu local, c'est-à-dire priorité aux nationaux dans tous les domaines pour qu'on puisse voir l'émergence des champions. Ce sont des lois qui sont en train d'être, des avant-projets qui sont en train d'être revus par les partenaires également avant que ça passe en débat au Parlement et autres parce qu'on va couler ça sous forme de loi. Mais encore une fois, nous pouvons faire toutes ces belles choses. Si nous-mêmes, Congolais, nous ne pratiquons pas certaines valeurs, si nous-mêmes, Congolais, nous faisons partie de la corruption qu'on institutionnalise, je crois qu'il nous sera très difficile de sortir de l'ornière. Parce que la corruption, finalement, c'est je ne le dirai jamais assez, c'est un cancer, c'est le poison ultime, c'est ce qui annule tous les efforts d'un gouvernement, c'est ce qui fait que même vous les jeunes, comme Justin, Georges ou Denis et autres, finalement on vous prive des opportunités qui devraient vous revenir légitimement. Et finalement certains d'entre vous font une chose, ils prennent un carnet qui a une couleur de couverture bleue ou rouge ou verte qui s'appelle passeport et vous êtes parti de ce pays, vous allez vous exiler ailleurs, ou vous allez briller de mille feux. Et parfois, vous allez aider ces pays-là à venir même exploiter notre pays. C'est ça l'ironie de tout ça, à la fin. Et donc, prenons-nous au sérieux nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Le blanc, les étrangers profitent simplement du fait que nous sommes facilement corruptibles. Et c'est pour ça qu'il fait ce jeu-là. Si nous devions nous lever, avoir de l'intégrité, avoir du patriotisme et appliquer des valeurs de méritocratie et autres, je crois qu'il y aurait moins de place pour ce genre de pratiques.
Et malgré le contrôle initié par l'RSP dans la sous-traitance, surtout dans les secteurs miniers, mais il y a toujours des entreprises qui continuent à tricher avec des prête-noms et voilà, tout ce qu'ils font là.
Nous devons avoir des contrôles sévères, mais encore une fois, si ces contrôles-là aussi succombent au charme de l'argent, au travers de la corruption, on n'est pas sorti de l'ornière. Vous savez, Jody, je le dirais au risque de sonner comme un disque rayé. Tous les pays au monde où j'ai été qui ont réussi à avancer ont en commun quatre valeurs. D'abord, ces gens aiment leur pays, parce que quand on aime son pays, on ne le trahit pas. Regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, à l'Est par exemple, c'est d'abord une trahison de ce pays par les fils de ce propre pays. Donc on aime son pays. Deuxièmement, c'est l'intégrité, c'est-à-dire on fait ce qui est correct même quand personne ne vous regarde, surtout d'ailleurs quand personne ne vous regarde.
Oui.
Et puis troisièmement, c'est l'obligation des résultats. Quand on veut faire un travail, on le fait jusqu'au bout. Et enfin, la méritocratie. Si nous n'appliquons pas ces valeurs-là nous-mêmes, je crois que tout ce que nous projetons de faire peuvent rester des vœux pieux. Hein. Malgré toutes les lois et toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir.
Oui.
Et ça, c'est la responsabilité, non pas d'un régime passé, présent, avenir, c'est la responsabilité de 100 millions de Congolais, individuellement et collectivement. Et donc, nous avons chacune et chacun...
Chacun de nous a sa part des responsabilités dans tout ça.
Absolument.
Bien, avant de répondre à la question des dénis, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons du développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo avec le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Luwatum Kabamba. Nous avons en ligne Arthur depuis Mahagi, Jonathan est à Bounia, Roger Marcel à Kinshasa, Patty nous appelle des Bandundouville et Georges de Lubumbashi. On commence avec vous, Jonathan, depuis Bounia. Bonjour et quelle est votre question? Allez-y rapidement pour donner aussi le temps aux autres de poser leurs questions. Jonathan, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, Jody. Je salue aussi le ministre qui est avec vous au studio. Alors, vous savez, j'ai des petites questions. J'aimerais savoir, il a parlé des provinces, parce qu'il a dit qu'il ne voudrait pas qu'il fasse des choses seulement pour le bénéfice de certaines provinces et exclure les autres provinces. Alors, j'aimerais demander, nous qui sommes par exemple ici à l'Ituri, quels sont les préalables qu'ils ont pris, parce que ni mignon que nous sommes dans un contexte de guerre, alors une personne, un jeune comme nous, ambitieux, créer une entreprise. Donc on va la créer dans une atmosphère comme ça de guerre. Je ne sais pas. Alors, quels sont les préalables au niveau gouvernemental pris pour ces provinces qui sont à guerre actuellement? Mais également, il est ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. J'aimerais savoir, ça c'est la deuxième question, est-ce qu'il peut me dresser le parallélisme entre une industrie et une entreprise? Parce que ça prête un peu confusion. On sait que dans nos milieux, nous avons un fonds appelé le fonds pour la promotion de l'industrie. On ne sait pas si est-ce que ce fonds est aussi substitué à ce que nous appelons FOGEC et tout ça. Mais néanmoins, nous saluons quand même les initiatives parce qu'avec la maison de l'entrepreneuriat, ça nous donne quand même un peu de soulagement par rapport à ce que la RDC veut devenir sur le plan entrepreneurial. Mais vous savez, il est en train de pousser les cris plaintifs par rapport au fonds et également au financement. Monsieur le journaliste, cher Martin, et cher ministre, vraiment, vous savez, il y a des entreprises publiques. Ni n'ignore que ces entreprises sont considérées comme la colonne vertébrale de l'État. Lorsque l'État est en train de voter des budgets, lorsque le Parlement est en train de voter des budgets, et vous savez, ceci passe derrière et ce budget doit être mobilisé. Et quelles sont les entreprises qui fournissent à l'État? Ce sont les entreprises publiques de l'État, ce sont les entreprises de portefeuille de l'État. Alors, je suis sûr que ce ministère n'est pas géré par lui, mais je pense que c'est une contribution que je suis en train de donner.
Merci Roger, merci beaucoup Jonathan depuis Bounia. On va prendre la question d'Arthur de Mahagi. Arthur de Mahagi, bonjour, quelle est votre question rapidement?
Bonjour.
Arthur, vous êtes là? Allô? Arthur n'est plus là. Roger Marcel de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis merci pour m'avoir accordé la parole. Je pense que j'essaierai vraiment plus tard pour donner la parole, monsieur le ministre. Je pense que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est comme si à chaque fois on a toujours des ministres qui ne connaissent pas vraiment la situation du terrain. La RDC, on a 26 provinces. Nous voulons évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut tout d'abord que les ministres puissent connaître la situation de chaque province. Parce que comment on peut aller dans une autre province qu'on ne connaît pas la réalité, qu'on cherche un peu de financer les jeunes les jeunes là qui sont dans cette province là vivent autre chose. Je pense que nous, premièrement dans la ville de Kinshasa, on avait une émission là avec la radio Capi dans la maison de la partenariat. On avait donné presque les explications. Comment on peut se retrouver dans le domaine de l'entrepreneuriat?
Roger Marcel, quelle est la question? Allez tout droit au but. Quelle est la question? Les autres attendent.
Oui, je pourrais demander au monsieur le ministre, depuis qu'il est qui occupe vraiment ce poste-là, il a eu combien à soutenir un peu les jeunes de toute la République? Parce que à chaque fois quand il y a de tels débats, il faut toujours les jeunes qui se plaignent toujours dans ces.
D'accord. Depuis que le ministre Watoum est là, combien de jeunes entrepreneurs a-t-il soutenu? Merci beaucoup. Patty, vous êtes à Bandundouville. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, cher Daniel. Ah oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Poser ma question à notre ministre. Cher ministre, quand vous parlez dans tous ces projets-là, le Congo, vous avez résumé seulement, c'est la ville de Kinshasa qui représente la RDC, ou même nous aussi qui sommes, par exemple, ici à Bandundu, nous sommes concernés. Comment expliquer des projets comme ça ne se lancent qu'à Kinshasa? Donc, elles sont des super Congolais et nous, on est les moins Congolais ou quoi? Nous pouvons aller où? Aller toquer où? Pour qu'on puisse avoir aussi les moyens. Moi qui vous parle ici,
super Congolais.
J'ai ma boutique. Je suis.
Vous êtes entrepreneur, Patty?
Je suis commerçant, je vends. Oui. Mais je suis entrepreneur. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, on a on est devers les commerçants qui semblent être puissants par rapport à nous. Je vois là notamment les expatriés. Cher Jody, nos frères.
Allô, Patty?
Oh. Les expatriés vendent ça, oui, à 300 francs, à 400 francs des fois. Et c'est au vu et aussi de tout le monde. Les autorités sont là. Le gouverneur est là. Ces ministres sont là, les gens de l'environnement sont là.
D'accord, moi, je comprends bien. Vous êtes entrepreneur, vous avez votre boutique, mais les expatriés sont là, ils font la vente en détail, alors que, oui, c'est réservé aux nationaux. Merci d'avoir appelé. Georges, vous êtes à Lubumbashi.
La vente en détail.
D'accord, on a compris, Patty. Merci beaucoup. On court derrière les temps. Georges de Lubumbashi, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, Jody. Bonjour, Lindsay.
On vous écoute, Georges.
D'accord, je vais passer rapidement au but. Des questions juste pour poser à notre invité. Pour question des entrepreneurs qui sont sur la ville de Mbachi, par exemple, il y a beaucoup de préférés. Vous m'entendez?
Désolé, la communication n'est pas très bonne. Peut-être Tati peut s'en occuper, vous allez changer des lignes et nous rappeler plus tard. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il y a d'abord la question des Denis depuis voilà, qui dit qu'il a évolué dans l'élevage, il a perdu voilà, maintenant il était à la NADEC, il sait pas où aller toquer encore pour être soutenu.
Oui, Denis, d'abord tu as tous mes encouragements et bravo, félicitations pour ce que tu as pu accomplir. C'est bien dommage qu'il y ait cette maladie porcine qui a décimé ton cheptel. Je suis fort désolé pour cela, mais c'est parfois les aléas des affaires. Tu as tous mes encouragements. Du point de vue d'assistance, d'abord, je crois qu'il y avait une question, comment connaître le nombre de tonnes de porc importés. Je dois avouer que je n'ai pas moi-même une réponse à cette question-là. Je ne l'ai pas parce que une des grandes faiblesses que j'ai trouvées en arrivant au ministère, c'est le manque de statistiques fiables. Et nous continuons à essayer de numériser les systèmes pour que nous commencions ne fût-ce qu'à avoir des statistiques fiables. Et aujourd'hui, je ne saurais vous le dire. Ce chiffre existe quelque part, mais il est éclaté dans plusieurs différents départements et services qu'il faut mettre ensemble pour retrouver cela. C'est un exercice qu'on pourrait faire, évidemment, pour pouvoir savoir où on en est. En termes de ce qu'il faut faire maintenant pour votre cas, je crois que ne vous découragez pas, venez nous voir, venez continuer. Si vous ne trouvez pas satisfaction auprès de l'ANADEC, parce que je dois avouer que qu'en arrivant, toutes ces structures quelque part étaient vraiment en mode même moins que survie, parce qu'il n'y avait pas de financement du tout, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait pratiquement pas d'activité. Il y a quelques moyens qu'on a pu mettre en place. Et si j'en profite aussi pour toucher un peu à... Je crois que c'est Jonathan de Bounia, je crois, qui disait que mais le ministre se plaint. Non, je ne me plains pas, bien au contraire. Je vous dis ce que nous sommes en train de faire, mais je le dis de manière réaliste.
Oui.
Parce qu'on n'est pas démagogue ici. On vous dit les choses telles qu'elles sont et avec tous les efforts qu'on fait. Et donc, il y a quelques efforts, Denis, qui ont été faits pour que cette structure soit financée. Il y a quelques moyens aujourd'hui qui sont là. Voyons ce qui peut être fait pour vous. Et si cette structure ne peut pas satisfaire vos besoins, toquez à notre porte. À notre porte, à nous, le ministère. Mmh. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes en train de faire des efforts avec plusieurs partenaires, même ici au niveau local, pour avoir davantage de moyens pour vous, les entrepreneurs. Nous sommes là pour vous voir réussir. C'est à cela que nous serons jugés nous-mêmes aussi, dans notre évaluation de performance. C'est dans la mesure où vous allez réussir. Et c'est d'ailleurs ici l'occasion aussi peut-être de répondre à... je crois que c'est... Il y a quelqu'un qui a demandé, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait pour les entrepreneurs jusque-là, en termes chiffrés, etc.
Oui, il y a une question dans ce sens-là.
Oui, je ne sais plus qui avait posé la question, mais je peux vous dire qu'en ce jour, par exemple, en faveur des PME et PMI, il y a plus de 40 contrats d'une valeur de près de 480 millions de dollars en termes de marché pour la sous-traitance qui ont été faits. C'est concret, c'est réel, c'est vérifiable. Maintenant, 480 millions de dollars, est-ce que c'est assez? Encore une fois, non, ce n'est pas assez. Mmh. Ce n'est pas assez parce que le gâteau de toute cette sous-traitance est de loin plus élevé que ces montants-ci. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a encore énormément d'efforts à faire et nous sommes engagés sur cette voie-là. J'essaie de ramasser les quelques questions.
Oui,
ici,
les quelques qui pourraient, bien sûr. Jonathan de Bounia parle de créer une entreprise dans un contexte de guerre, tout ça.
Jonathan, tu sais, je suis très conscient de ce que tu dis. D'ailleurs, je pense que je serai dans vos murs très bientôt aussi pour compatir avec les tueries atroces qui viennent de se passer encore chez nous là-bas.
En Djougou.
Oui, je serai là-bas un de ces jours pour être avec vous. Vous allez apprendre dans les tout prochains jours, peut-être au mois de mars, parce que le système est déjà mis en place. Nous faisons une dernière consultation avec les parties prenantes, un dernier réglage. C'est pour créer une plateforme numérique de dématérialisation du guichet unique. Vous savez que le guichet unique de création d'entreprise aujourd'hui, il faut aller physiquement à un guichet unique. Ce guichet unique, il y en a combien dans la RDC? Il y en a dans 7 ou 8 villes. Et encore une fois, je suis de ceux-là qui croient que 7 ou 8 villes ne représentent pas la RDC.
Sur 26 provinces, oui.
C'est pour cela que nous avons conçu un système numérique de dématérialisation du guichet unique. De telle manière que vous soyez à Magi, que vous soyez à Inongo, que vous soyez à Malembankulu, que vous soyez à Dilolo, où que vous soyez, que vous soyez à Kazumba, avec rien que le réseau de 3G sur votre téléphone, Internet, vous allez électroniquement introduire toute la liasse documentaire et votre entreprise sera enregistrée dans les 48 à 72 heures. Vous n'avez pas besoin de faire le déplacement de Kinshasa, ni le déplacement de Lubumbashi, ni le déplacement dans l'une des 7 ou 8 villes où se trouve le guichet unique.
C'est la plateforme iKazi, c'est
ça? Non, ça c'est pas encore
iKazi.
Ça c'est en train de venir maintenant.
D'accord.
iKazi déjà, qui est déjà opérationnel, et Jonathan, c'est aussi pour toi, pour ton information, c'est un, pour la première fois en RDC, nous avons mis sur place, sur pied, un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle et qui répond à toutes vos questions. Jonathan, tu veux créer une entreprise? Il y a un numéro, un simple numéro que tu vas taper sur ton téléphone et ça te met directement et gratuitement en contact avec l'assistant virtuel. Et tu lui demandes, qui va te demander qu'est-ce que tu veux faire. Ah, tu veux créer une entreprise. Va demander une entreprise dans quel secteur. Et si tu as des questions à lui poser aussi en termes de forme juridique, par exemple, de ton entreprise. Est-ce que tu veux une SARLO? Tu veux une SARL? Quels sont les avantages et autres? Par où il faut commencer? Quelles sont les lois qui vont s'appliquer à toi pour que tu crées ton... Toutes ces questions, aujourd'hui, vous avez un assistant virtuel pour le faire, où que vous soyez. Mais tout ça, c'est parce que nous avons compris que Kinshasa n'est pas le RDC. Il faut que partout vous soyez, que vous ayez la facilité de créer vos entreprises, la facilité d'avoir des réponses en temps réel aux questions que vous vous posez en tant qu'entrepreneur. Et nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous ferons encore davantage.
Et cette plateforme est déjà opérationnelle.
Celle-là, elle est opérationnelle. D'accord. Le CASI est opérationnel déjà. Il est opérationnel.
Bien, à part cela, vous avez aussi lancé une autre plateforme, solidaritéest.com. Pouvez-vous nous en parler un peu plus?
Oui, solidaritéest.com, c'est pour venir en aide aux populations de l'Est. Nous sommes une même famille. Plusieurs entre nous ne dormons pas bien ici à Kinshasa. À cause de ce qui se passe à l'Est, nous avons des insomnies. Toutes ces morts, toute cette guerre tout à fait injuste, mais qui crée des victimes malheureusement. Des victimes parmi les femmes, les enfants, nos unités combattantes qui tombent sur le champ d'honneur. Il faut des moyens. Il faut des moyens tant matériels qu'en nature et autres. Alors, solidaritéest.com, c'est une plateforme numérique dans laquelle vous pouvez contribuer selon vos moyens. Vous pouvez le faire par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money, vous pouvez le faire par carte bancaire, Mastercard ou Visa, quel que soit le montant. C'est un usage très facile, vous cliquez sur votre téléphone solidaritéest.com, ça vous amène directement sur ce site-là et vous choisissez votre mode de paiement. Et tous ces paiements-là vont dans un compte du Trésor qui a été arrêté par le gouvernement. Et avec la collaboration de nos ministères tels que l'aide humanitaire et autres, nous allons faire parvenir ces fonds à qui de droit. Et cette plateforme n'est pas seulement opérationnelle pour nous Congolais ici en RDC. C'est pour même toute la diaspora qui est dans le monde entier. Voilà, c'est en ça que consiste solidaritéest.com.
Bien, pour la plateforme iCasi, il y a un numéro qu'il faut taper, c'est le 081 30 31 030. Voilà, c'est le numéro qui vous permet, voilà, c'est un numéro WhatsApp, hein, 081 30 31 030. Monsieur le ministre, nous sommes presque à la fin de cette émission.
En tout cas, c'est à consommer sans modération.
À consommer sans modération. Alors, avant de clôturer cette émission, un message à tous les entrepreneurs qui vous suivent en ce moment.
Ben, ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs, d'abord, je suis très fier d'eux. Très fier d'eux parce que la majorité d'entre eux sont sortis d'un système éducatif qui ne les avait pas préparés à cela. Croyez-moi, la jeunesse anglo-saxonne est mieux préparée à l'entrepreneuriat que nous, ici en RDC, parce que ces pays anglo-saxons ont appris à leur jeunesse, dès le très bas âge, que la création de richesses n'est pas une mystique, qu'elle consiste à produire un bien, un service dont la société a besoin, vendre à la société, être payé, le faire de manière répétée. C'est ça la création de richesse finalement. Et bien sûr, il faut maintenant ajouter à cela l'éducation financière, il faut ajouter à cela le marketing, il faut ajouter à cela tout un tas de choses, et puis la persévérance. Alors, je dis à nos entrepreneurs ceci, n'ayez aucun complexe, malgré le retard que nous avons eu. N'ayez aucun complexe. Je vous ai vu à l'œuvre pendant plusieurs années, je sais de quoi vous êtes capable, mais je vous invite à rester focus sur l'effort à faire. Et à comprendre ce que nous, dans le monde des affaires, nous appelons la solitude du coureur de marathon à longue distance. Pour ceux d'entre vous, chers entrepreneurs, qui avez fait du marathon, vous savez que pendant un marathon, vous passez certaines étapes où il y a la foule pour vous acclamer, pour vous donner de l'eau à boire, des rafraîchissements, des oranges et autres. Mais vers les étapes ultimes de ce marathon-là, souvent c'est une montée qui est très abrupte et il n'y a plus la foule pour vous acclamer et il n'y a plus que votre corps qui fait mal, les muscles, vos jambes qui ne vous portent plus. En ce moment-là, vous n'avez plus que deux alliés, c'est votre mental qui doit rester fort et la croyance en un Dieu suprême qui va vous faire parvenir à destination. Et donc c'est ce niveau de sacrifice et d'effort qu'il faut. Et ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat reconnaissent les mots que je dis ici, ils savent de quoi je parle. Donc je vous encourage à aller de l'avant, à persévérer, à ne pas abandonner.
Bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Lui, Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement des PME. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Merci, Jody.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.